La plus belle louange, c'est nous. Ce n'est pas ce qui sort de nos lèvres, car tout peut être trompé ou trompeur. Ce qui est agréable à Dieu, même s'il n'y a pas le parfum, la fleur est belle. Et même s'il n'y avait pas des paroles, notre vie sauvée, rachetée, régénérée, sanctifiée, c'est la louange de Dieu. Il faut mieux le vivre plutôt que de le dire seulement. Mais nous le vivons et nous le disons. Alors, ce matin, je vous parle afin que personne ne se perde. Je vous parle afin que personne ne se perde. C'est le thème de cette petite méditation que je vous invite à suivre, mais surtout à bien recevoir dans votre cœur. Parce que Dieu ne parle jamais pour rien dire. Et quand le Seigneur me conduit vers des textes, tout au long de la semaine, je fais des allers-retours, parfois le dimanche à 2h du matin, je fais un petit aller-retour et je reviens parce que je ressens que je dois aller vers ce petit jardin de la Bible plutôt que celui-là, ce petit jardinier plutôt que ce grand champ. Parfois, il y a des petits jardins qui sont très fertiles, qui portent bien beaucoup de fruits. Eh bien, je partage avec vous un petit jardin. Et j'aimerais faire deux lectures. Une dans l'Ancien Testament, n'oublions jamais l'Ancien Testament qui fait comprendre le Nouveau Testament. Jérémie, chapitre 31, Jérémie 31, verset 7. Alors, dans l'Ancien Testament, quand on voit ce genre de texte de peuple qui revient, c'est toujours Israël qui revient de sa captivité. 70 ans captifs à Babylone, c'est pas rien. Mais il y a des chrétiens qui ont été plus que 70 ans captifs. Captifs de leurs mensonges, captifs d'impureté, du péché. Il y a des captivités aujourd'hui, vous savez. Mais il faut en revenir. Il faut que le Seigneur nous ouvre les portes de la liberté. Alors, Jérémie 31, verset 7. Levez-vous. Montons à Sion, c'est-à-dire Jérusalem, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, pays du nord. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est un peu encombrant. Des boiteux, des femmes qui vont accoucher pour un parcours de centaines de kilomètres, mais personne ne doit être oublié. La femme enceinte et celle en travail, c'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Amen. Dites pas amen très fort. Amen. Devant ce père qui ramène ses enfants un peu égarés. On peut s'égarer aussi dans sa tête. Alors, maintenant j'aimerais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Il faut toujours revenir à l'Évangile, vous savez. Je pense que l'Église, c'est son terrain. c'est son terreau. Parce que l'Évangile, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors, Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle. Donc, toutes ces paroles sont importantes comme celles de l'Ancien Testament. C'est toujours lui qui parle. Mais écoutez bien, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Votre amen n'est pas terrible. Amen. Ça vous intéresse, la résurrection? Moi, ça y est, c'est accompli. Je suis ressuscité dans mon âme, avec le Christ. Mon corps, ça suivra tout seul. Quand la tête est passée, le corps suit bien. C'est comme ça dans les accouchements. Eh bien, déjà en nous, nous sommes ressuscités avec le Christ. Mais Jésus est à son poste. Il dit, afin que personne ne se perde, que je ne perde aucun de ceux que tu m'as donnés. Même si parfois c'est difficile, la vie est bousculante, et parfois on lâche un peu prise d'un coup de colère, d'un coup d'aveuglement, d'un coup de folie. Mais le Seigneur veille, comme la maman qui surveille son enfant qui va un petit peu trop loin auprès de la route, la grande route du monde où il y a des accidents, des vols d'enfants, des séductions. Que rien ne se perde. Il nous surveille, il nous suit, il nous porte dans ses mains chaque jour, comme on chantait autrefois, chaque instant de chaque jour. Que personne ne se perde. À la multiplication des pains, le Seigneur disait, ramassez les morceaux, afin que rien ne se perde. Pas de gaspillage. On a l'impression que le Seigneur n'est pas pour le gaspillage. Il est pour la discipline, il est pour qu'on soit des hommes et des femmes éduqués avec un haut niveau de moralité, un haut niveau de conscience chrétienne, professionnelle, conscience de père, de mère. Il faut qu'on ait cette qualité d'âme, d'esprit qu'avaient les apôtres, les prophètes, les patriarches. Pas de gaspillage de temps, de force, quoique nos forces on les donne. La vie c'est fait pour être donnée. Vivre c'est un travail, c'est pas dormir, c'est pas être olé olé. Quand on vit, on travaille, on fait quelque chose pour Dieu. Quand on respire, quand on mange, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas de gaspillage donc, ramasser les morceaux qui restent. Je me demande si le Seigneur a peut-être appris à ses disciples qu'il faut toujours compter sans rien perdre. À la pêche miraculeuse, la deuxième après Pâques, ils ont compté les poissons. On aurait pu dire, bon, on n'est quand même pas 10 près, on en a plein la barque. 153. Les comptes sont bons? Oui, 153 gros poissons, que rien ne se perde. quand le Seigneur donne ses paraboles, la parabole du mouton perdu, sur 100 moutons, un mouton ça compte. Et sur toute l'Église, une brebis ça compte. Et dans toute votre vie, un jour ça compte. On n'a pas tant de jours que ça. Et quand la femme, il reprend la parabole de ce qui se perd, que rien ne se perde, la parabole de la drachme perdue. La drachme, c'est une monnaie grecque qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. La drachme perdue dans la maison. Et la femme qui balaye, qui éclaire, qui la met la maison sans dessus, dessous. Et elle retrouve sa drachme, 1 sur 10. Ce n'est pas une grosse perte. Si. Il faut savoir compter et ne pas être habitué à perdre sans état d'âme. Et puis, dans les paraboles de la perdition, le mouton perdu, la drachme perdue, le fils perdu, et là ça compte, parce qu'un homme avait 2 fils. Un perdu, c'est une perte extraordinaire. Et un enfant qui meurt, qui disparaît, qui se perd dans les sentiers du monde, c'est grave. Même si on en a 40 enfants, ou 2, ou 1, Dieu ne se console pas. Dieu compte sur vous. Il vous compte. Dans les livres des psaumes, il est dit que nous sommes inscrits à Jérusalem. Depuis le commencement du monde, Jérusalem d'en haut, il y a une ville avec des registres dans le ciel et Dieu nous a écrits dans ces registres. Et Moïse disait, efface-moi du livre de vie, mais pardonne à ce peuple. Donc il avait conscience qu'il y avait un livre avec notre nom d'inscrit par la main du Seigneur. Il faut compter, que rien ne se perde. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je ne sais pas si vous avez pris l'habitude, la conscience, le réflexe de compter en fin de journée les bienfaits de Dieu. Et de compter aussi vos péchés. Et de compter ce qui n'a pas été fait. Et ce qui aurait dû être mieux fait. Je pense qu'on doit être des bons comptables de Dieu. On doit être responsable du peu de jours que Dieu nous donne sur la terre. Le Seigneur disait que je ne perds rien de ce que le Père m'a donné. Nous sommes un don du Père. Notre conversion, ce n'est pas parce que tout à coup on a fait quelque chose. Nous sommes un don du Père. Le Père nous a donné au Fils pour que le Fils nous sauve et nous guide. Ils étaient à toi, dit le Seigneur, quelques minutes avant de mourir. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Dieu veille sur vous. Il y a toujours des chrétiens que je rencontre qui ont peur de perdre leur salut. Dieu vous porte, vous êtes dans sa main comme un petit poussin dans la main du fermier. La grosse main calleuse du fermier, soyez sans crainte. Le Seigneur a reçu l'ordre de nous garder. C'est sa responsabilité, c'est sa mission. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Notre vie, Dieu a remis notre vie dans les mains du Christ. Il est responsable de notre salut. Il n'y a pas que nous. Parfois, on examine sa foi et des gens disent « j'ai moins de foi » ou « j'ai pas assez de foi ». Donc, on fait du salut notre travail à nous. Or, c'est le travail du Seigneur. Le Fils de Dieu est responsable de notre salut. Bien sûr, on peut se retirer, on peut fermer le cœur à la sève et devenir un sarment tout sec, tout laid, tout affreux. On peut faire cela, bien sûr, mais tant qu'on est en relation avec lui, le Seigneur nous garde. Le Père a remis notre vie dans ses mains. Il conduit notre salut, et de progrès en progrès. Il ne veut pas qu'on reste au stade de l'enfance, au stade du balbutiement. Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes matures, mûrs, capables de juger des choses, de comprendre les choses, de parler ou de se taire. Il y a donc une protection du Seigneur sur les disciples durant tout le temps de leur vie. Dès qu'on se convertit, dès qu'on découvre, dès qu'on prend le baptême, il y a une protection du Seigneur. Nous sommes dans sa main. Et nous serons aussi sous sa protection dans l'autre partie de notre vie, qu'on ne connaît pas encore, jusqu'à la résurrection. Les théologiens appellent ça l'état intermédiaire, c'est-à-dire entre votre mort et votre résurrection. Il y a un temps qui va passer là, de quelques jours ou de quelques siècles, on ne sait pas. Il y en a qui attendent depuis des milliers d'années. Et pendant ce temps-là, l'état intermédiaire où nous serons dans le paradis auprès du Seigneur, le Seigneur veillera sur nous. Nous ne serons pas oubliés. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, a dit Jésus au brigand sur la croix. Donc avec moi, sous mon autorité, sous ma surveillance, sous ma protection. Le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Et ce parcours du psaume 121, je crois que ça représente notre vie gardée, protégée, pour que personne ne se perde. Il ne faut pas que la Samaritaine, avec sa vie un peu boiteuse, il ne faut pas qu'elle se perde. Elle a entendu la voix du Seigneur, ne la jugez pas. Il ne faut pas que l'aveugle-né qui a été un peu chahuté par les hommes religieux et qui a été bousculé, humilié, il ne faut pas qu'il se perde. Il faut que ceux qui sont parfois humiliés, maltraités, oubliés, il faut veiller sur eux, il faut les aimer, il faut regarder s'ils ont reçu notre bonjour, reçu notre poignée de main, un secours. Et puis la femme adultère de l'évangile de Jean, tout ça c'est l'évangile de Jean. Hein. La femme adultère qui est pointée du doigt et amenée comme un sac de linge sale à Jésus de grand matin. La femme adultère, il ne faut pas la juger jusqu'à la fin du monde. La femme adultère, elle découvre le Christ et il ne faut pas qu'elle se perde sous les critiques et les jugements. Et Pierre, le renégat, je jure, devant Dieu, que Dieu me reprenne si je me trompe, je n'ai jamais vu cet homme. Pierre, mon ami, on ne pourrait le juger jusqu'à la fin du monde. On ne juge pas, on ne critique pas, le Seigneur veille sur eux, donc nous les respectons. Personne ne doit se perdre. Dans la traversée de la mer Rouge, il y avait peut-être 2 millions de personnes, avec des gens de tous âges, des petits, des grands, des âgés. Personne ne s'est perdu. On n'a oublié personne dans la mer Rouge. En arrivant de l'autre côté, personne n'a dit « Ah, j'ai oublié mon mari. Ah, j'ai oublié mon enfant. » Tout c'était là. Tout c'était compté dans l'amour de Dieu. Et je pense encore à ce Lazare qui était mort. Je pense à ce temps encore parce que je crois qu'il faudra qu'on en parle un matin ou un après-midi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on parle de ce temps intermédiaire entre la mort et la résurrection. Que ferons-nous? Comment ça se passera? Il faut. Et Lazare, quand il était dans le décès, je n'aime pas ce mot-là. Quand il était dans la mort, je n'aime pas ce mot-là. Quand il était dans la présence du Christ, voilà. Voilà comment je parle. Il était dans la présence du Christ. Eh bien, il était dans son tombeau, oui. Mais Jésus dit, il dort. Donc je le surveille. Et je vais lui parler. Et je vais le réveiller. Quand Jésus annonce à l'apôtre Pierre son martyre, quand tu seras vieux, quelqu'un va te ceinturer et il va t'amener là où tu ne veux pas aller, c'est-à-dire à la croix, au martyre, au supplice. Mais ensuite, il dit à Pierre, suis-moi. Ça veut dire, marche derrière moi. Je t'ouvrirai le chemin, je serai à tes côtés et dans ton agonie, au moment où l'on va peut-être te brûler, te torturer, te décapiter, je serai là avec toi. Pierre, suis-moi. Comme le jour où tu es tombé dans le lac et où tu as failli te noyer et tu as crié, Seigneur, sauve-moi, j'ai pris ta main et je t'ai relevé des eaux du lac et je t'ai remis dans la barque. Et quand tu seras dans le martyr, je prendrai ta main et je te conduirai dans la gloire devant les anges et devant l'Église déjà arrivée là-haut. Personne ne se perd quand on appartient au Seigneur. Le Seigneur a gardé ses disciples. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours vu. Et je ne sais pas si vous le voyez toujours. Il y a des moments où je m'arrête et je me dis, Seigneur, si tu n'avais pas été là, j'aurais eu un accident de voiture. J'ai failli passer sous un camion il y a déjà quelques mois, c'est pas très vieux. Et après, j'étais tout tremblant et je me suis dit, Seigneur, sans ta protection, où serais-je aujourd'hui? Tu veilles, tu étends tes mains pour arrêter les camions qui sont à 5 ou 6 mètres. Oh là là, Seigneur. Le Seigneur a gardé, est-ce que les apôtres l'ont toujours vu? Ah oui, à Gethsémané, ils l'ont vu. Dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus a été arrêté par la cohorte et qu'ils viennent chercher Jésus, et Jésus dit, « Qui cherchez-vous » Ils disent tous, « Jésus de Nazareth !» Ils tombent tous par terre. Et Jésus répète, « Qui cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Jésus de Nazareth ! Alors si vous me cherchez, c'est moi !» Mais laissez aller ceci, ne touchez pas mes apôtres. Le Seigneur veille sur nous pour que personne ne se perde. Nous avons un temps pour naître, nous aurons un temps pour mourir. Il faut remplir entre ces deux temps-là, il faut bien remplir notre vie. Ne pas la perdre dans du gaspillage de temps, de paroles, de plaisirs du monde. Il faut que notre vie soit sérieuse. Mais il y a des dangers que les disciples n'ont pas vus. Il y a eu des problèmes qui se sont passés, ils n'ont rien vu. Et je pense surtout quand Jésus leur a parlé de la croix, ils ont dit « Certainement pas, Seigneur, certainement pas !» Et là, ils faisaient la voix du diable, ils faisaient le jeu du malin. « Certainement pas !» Et ça, c'était un danger. Ils auraient pu se perdre. « Certainement pas !» dit l'apôtre. Ça ne t'arrivera pas, tu n'iras jamais à la croix. C'est une honte, la croix. Simon, tu mets en scandale. Arrière de moi, Satan. Il faisait la voix de Satan. Le Seigneur nous a préservés aussi des manœuvres de l'adversaire. Et je pense même parfois, quand ils discutent entre eux, mais c'est tellement insidieux, c'est tellement fin, c'est un langage qu'on n'entend pas, c'est tellement subtil. Ils discutent entre eux, ils ne savent pas que Jésus va mourir dans quelques heures, quelques jours, quelques heures. La vie, à la fin, ça se compte en heures. Et là, ils discutent entre eux et ils disent « Qui est le plus grand parmi nous ?» Le malin se frotte les mains en disant « Ils n'ont rien compris !» Ils n'ont rien compris. Ils sont tous aveugles. Ils sont tous bornés. C'est très bien comme ça. Je les récupérerai un jour. Parce que quand on va dans l'aveuglement, on ne sait pas comment on va en sortir, puisqu'on est aveugle. Mes amis, le Seigneur les a gardés. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Le Seigneur veille sur nous. Notre part à nous, c'est de, on l'a lu tout à l'heure, de croire au Fils de Dieu et de regarder à lui, de le voir et de croire. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on ne se perde pas. Je ne suis pas d'accord tellement avec les gens qui disent « J'ai eu la foi et j'ai été sauvé. » Non, il m'a aimé et j'ai été sauvé. Et en le recevant, c'est ça la foi, c'est recevoir l'amour du Christ. Nous mettons tout parfois pour glorifier une foi qui ne doit jamais être glorifiée. Qui sommes-nous? Que faisons-nous de spécial? Est-ce que l'enfant dans le sein de sa mère se glorifie? Heureusement que je suis là, hein, maman. Nous sommes déformés par la mentalité du monde. Le Seigneur nous garde à chaque instant, le départ et l'arrivée. Amen. Pourtant, il y a des gens qui se perdent. Judas, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Quel mystère! Je ne discute pas trop sur le mystère de la perdition. Mais je vous comprends un peu ce mystère. Quand Jésus dit, tout sarment qui est en moi, il me connaît, il m'écoute, il me suit, il me voit, il chante, il crie. Mais il ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que la sève ne passe pas. Il y a un blocage, il y a un péché, il y a quelque chose de tordu dans le rameau, dans la branche. La sève ne passe pas, il ne porte pas de fruits, et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Notre part à nous, c'est de rester fidèles au Seigneur. Amen. Je voudrais conclure en vous disant, afin que personne ne se perde, le Seigneur a mis sur nous ses deux mains. La main du Père. La main du Père parce que personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La main de Dieu est sur nous. La main du Créateur de l'univers qui connaît la faiblesse de nos santé, qui connaît les disputes de la famille, qui connaît les chagrins que personne ne connaît. La main du Père est sur nous et personne ne peut nous prendre, nous voler de la main du Père. Et il dit, personne ne vous ravira de ma main. Ça fait deux mains. La main de Dieu le Père, la main du Christ. Ainsi, vous ne vous perdrez pas. Mais je voudrais valoriser, parce que pour ne pas se perdre, il faut rester bien ensemble. Une brebis égarée, elle est égarée, elle est perdue. Le loup n'en fera qu'une bouchée. Je veux valoriser mon ministère et le ministère de l'Église. Il faut qu'on soit ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Aujourd'hui, il y a une crise dans les églises, la crise des absences. C'est gravissime. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit ensemble, pas jour et nuit, dans les cultes. Comme Israël qui avait ses fêtes où tout le monde était là. Et si on ne montait pas à Jérusalem pour la fête de l'Éternel, pour être face à Dieu, on était exclu. Et je pense que l'Église, c'est un peu la continuité des fêtes de rassemblement d'Israël, Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Et l'Église, c'est un peu le signe avant-coureur de la grande fête où nous serons ensemble avec le Seigneur. Et sur la terre, je connais des chrétiens qui ne viennent que trois fois au culte, par an. Si c'était par mois, ça irait. Réunir pour être fort, pour tenir, parce que Dieu envoie là. Ce n'est pas que les autres vont me dire forcément des paroles gentilles tous les dimanches, mais quand on est là, ensemble, il envoie la bénédiction. Caïphe, le sacrificateur, en jugeant Jésus. Il faut le faire quand même. En jugeant Jésus, Caïphe a prophétisé. Pourtant, ce n'était pas un converti, à mon avis. Mais il était sacrificateur, c'est-à-dire l'homme que Dieu place comme un signe en Israël. Et il a prophétisé qu'il était préférable que Jésus meure. Il fallait que Jésus meure pour la nation et pour réunir, il prophétisait, pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu, pouf, dispersés, pour les réunir. Quand on est rassemblé, le diable tremble. Quand on est rassemblé, le monde tremble, parce que c'est la puissance de Dieu qui est là, personne, afin que personne ne se perde. Les premiers chrétiens l'avaient compris, ils avaient tout en commun dans le même lieu. Ils priaient ensemble, ils partageaient beaucoup de choses de la vie ensemble. L'importance de la communauté pour que personne ne se perde. Quand Jésus ressuscite, il dit à Marie de Magdala, « Va trouver mes frères. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des sœurs, des frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et leur Père et votre Père. » L'importance du lien. Pour que personne ne se perde. Quand Dieu nous a créés, il a mis dans notre sang, il a mis ce qu'on appelle des plaquettes. Quand on est malade, on fait des examens de plaquettes. Les plaquettes qui tiennent comme un filet, le sang qui est liquide, qui pourrait s'échapper partout. Les plaquettes tiennent le sang. Et je pense que notre amour fraternel, ensemble, tient l'Église et les bénédictions de l'Église. Dieu aime l'Église, c'est son épouse. Quand elle est réunie, elle est vraiment le peuple que Dieu aime. Quand Dieu dit aux hommes mariés, sois épris de ses charmes, sois épris de son amour à ta femme. Et je crois que le Seigneur est épris, il est en émotion devant notre amour et le charme de son Église, parce qu'il la voit déjà dans la transfiguration. Ensemble pour ne pas se perdre. Oh, un jour, il y avait un homme qui partait à la dérive. Enfin, ce n'était pas de sa faute. On l'emmenait, c'est le psaume 42. Il était captif, prisonnier, et il devait partir vers la Syrie. Il était dans un char, je ne sais pas comment. Et là, il a fait ce psaume comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de Dieu. Et vous savez ce qu'il dit dans ce psaume? Il ne dit pas, je voudrais revoir mes tomates et mes roses. Je voudrais revoir mon petit jardin. Il dit, non, Seigneur, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Je me rappelle, avec un cœur plein d'émotions, quand je marchais vers la maison de Dieu, à la tête de ton peuple. Je voudrais revivre ça. Parce qu'il savait. Quand l'Église est réunie, quand Israël est réuni, Dieu est là. On n'y pense pas, on l'oublie, on est des têtes en l'air. Voilà, vous comme moi. Dieu est là. La joie du rassemblement pour ne pas se perdre. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, les déportés qui étaient à Babylone, l'horrible Babylone, qui crevait les yeux de ses prisonniers. Mais quand les enfants d'Israël sont revenus, notre bouche était pleine de rire et pleine de chants d'allégresse parce que le Seigneur ramenait Israël. Où? Quoi? dans ses piscines, au bord de la mer, dans ses skis. Il ramenait Israël dans la maison de la louange et de la parole de Dieu, le temple de Jérusalem. Je les ramène, nous l'avons lu ensemble, des extrémités de la terre. Vous savez, il ne faut pas être loin pour être loin. Il y a des gens, parfois, ils me regardent, mais je sens qu'ils ne sont pas là. Je sens qu'ils sont en train de surveiller leur poulet qui cuit tranquillement. On peut être loin, on peut être prêt à être loin. Comme le fils prodigue, il n'était peut-être pas forcément très loin, mais il était perdu. Et le Seigneur, il veut nous ramener des extrémités de la terre. Et parmi eux, nous l'avons lu ensemble, je le répète, parmi ces gens qui vont revenir, parce qu'il faut que personne se perde, il y a l'aveugle qui cherche son chemin, mais il y a quelqu'un qui va s'en charger et qui va lui tendre son bras. L'aveugle qui ne comprend plus, qui ne sait plus, qui a perdu pied, qui a renoncé à un service pour Dieu, qui a tout balancé, qui a mal travaillé, qui ne voit pas, qui a... Puis il y a le boiteux. Il y a l'aveugle et le boiteux. On va aider le boiteux aussi. Quand il marche, il a toujours des faux pas, il ne sait pas parler sans dire un mauvais mot, il blesse, il a un regard qui fait mal. Eh bien, le boiteux, on va le prendre en main. Allez, on retourne. Puis il y a la femme enceinte. Ah, c'est délicat. Bientôt, on va avoir une naissance dans l'église. Femme enceinte, il faut... Pas les femmes enceintes, on revient avec elles. On ne va pas la laisser sur le bord du chemin. Plus que ça. Celle qui est en travail, il y a déjà des contractions. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Il faut tous revenir. On va la porter. Allez, les hommes, on va porter cette sœur enceinte en travail, en contraction. Mais on va tous revenir. Ça va loin, hein? Vous me direz, c'est exagéré. C'est pour montrer que le Seigneur veut rassembler ses enfants comme la poule rassemble ses petits, afin que personne ne se perde. Amen. Dieu vraiment vous aime. C'est fou ce qu'il nous aime. Parfois, le travail, ça bloque. On n'a pas de réponse, on attend, on tourne en rond, on ne sait plus quoi faire. Toujours le Seigneur au-dessus. Il ne veut pas qu'aucun se perde pour des raisons matérielles, professionnelles, familiales. Ah puis, il y a le mari qui ne suit pas, et la femme qui ne veut plus suivre, et l'enfant qui fait les 400 coups. Le Seigneur dit, je m'occupe de tout ce monde. Toi, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Et ton trésor, ce sera peut-être ta femme, que tu n'as pas vue auprès de toi souvent au culte. Ce sera peut-être ton enfant, que tu as rarement vu à la prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Afin que personne ne se perde. Nous prions. Bénis, Seigneur, ta parole dans notre cœur, qu'elle produise en nous un fruit de courage et de persévérance, de confiance et d'amour, de confiance et de patience dans les épreuves. Que ta parole germe en nous, qu'elle produise en nous les plus belles fleurs, d'humilité, de douceur et de bonté. Seigneur, pardon, pardon, nous sommes encore trop remplis de la mentalité du monde. Nous pensons comme le monde, nous applaudissons comme le monde applaudit ses matchs de football. Mais notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, c'est de voir les âmes passer de la mort à la vie. Que personne ne se perde. Seigneur, ce matin, je voudrais te faire une prière. Permets que nous prenions soin les uns des autres. Êtes-vous d'accord, frères et sœurs ? ça ne répond pas. Amen. Mais vous avez raison de ne pas répondre. À votre place, je ne répondrai pas. Parce que prendre soin des autres, ça demande un peu de courage. Et il faut se démener. Il ne faut pas s'écouter. Enfin, je répète quand même la question. Le Seigneur veut qu'on s'occupe des uns et des autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-nous de prendre soin de nos frères et de nos sœurs, qu'on ne voit pas souvent, qu'on voit et puis qu'on ne regarde pas. Je fais la différence entre voir et regarder. Quand je jette un petit coup d'œil, je vous vois. Mais quand je vous dis « regarde-moi », là je vous regarde. Il y a des frères et sœurs que vous ne regardez jamais. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes dans votre petit cercle, puis vous ne voyez pas à côté des gens qui pleurent. Frères et sœurs, que l'Église, nous puissions l'appeler l'Église où personne ne se perd. Amen. On peut prendre quelques secondes de réflexion. Ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas un rituel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là. C'est simplement, on s'arrête au feu rouge. On fait une pause et on se dit peut-être que on joue avec sa vie. On n'est pas si attaché que ça à l'Église. On n'est pas si attaché que ça à la parole. On passe des jours sans la lire. Et on est heureux. On est heureux. Ça nous contente, voilà. Je suis sauvé, alléluia, oui. Vous êtes sauvé, mais vous êtes en guenille, cette sale de la tête aux pieds. On a besoin d'être purifié par la parole de Dieu. Que Dieu nous donne de la lire. Je prends la Bible, je parle comme la Bible, jour et nuit. Ça veut dire le jour et la nuit. Amen. Merci pour ta parole de ce jour, que la grâce soit sur chacun de nous. Amen.